Bonjour, bien-aimé. Nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu, afin qu'il puisse avoir le contrôle de ce moment que nous voulons lui offrir. Merci encore, mon Dieu, pour toutes tes grâces, toutes tes bontés envers chacun de nous. C'est toi qui nous as permis de nous lever en ce matin. C'est toi qui nous as permis d'ouvrir les yeux, de contempler toutes tes beautés. Merci encore pour tout ce que tu fais pour chacun de nous et tout ce que tu as encore réservé pour nous. Nous ne voulons pas être ingrats, nous voulons t'offrir tout ce que nous avons de meilleur. Parce que tu en es digne, mais en réalité, qu'est-ce que nous pourrons réellement t'offrir? Alors accepte toutes ces louanges que nous voulons t'adresser et que tu puisses aussi disposer nos cœurs à pouvoir écouter ta parole. Au nom de Jésus. Amen. En ce matin, nous voulons encore vraiment rendre grâce à Dieu parce que Dieu est vraiment amour. Si Dieu comptait y garder les souvenirs des fautes, qui pourrait subsister? Mais Dieu est amour. Donc l'amour de Dieu, de loin surpasse tout ce qu'on pourrait dire, tout ce qu'on pourrait penser ou imaginer. Son amour est bien au-delà de tout cela. Donc c'est pour cela que nous allons chanter ce chant, l'amour de Dieu, de loin surpasse.
Dieu, de loin surpasse ce qu'on peut dire. Cœur d'humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme. Oh, pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus, nous pardonne nos peines profondes, il sauve les perdus, l'amour de Dieu. Tendre est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les versets de langue, versets de langue. Dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde, et que chaque, oh oui, soit écrivain, oh oui, vous dire tout, vous dire. L'amour du Père ferait tarir les eaux, et remplirait la place entière. Oh, sur ces divins, où l'eau, l'amour de Dieu. Si fort, si tendre, oh, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre, oh oui, les anges et les saints, et que le monde et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois et ses rois contempleront tous les rebelles. Oh oui, soudain s'assise un grand effroi, un grand effroi. Oh oui, de Dieu l'amour, que rien ne lasse. Pour nous encore vivra. Un jour chancelle, avec ses trous de ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De l'amour que rien pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Oh oui, sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Oh oui, l'amour de Dieu, si fort, si tendre, si fort. Est un amour sans fin. Tel est le chant. Oh oui, que font entendre les anges et les saints. Oh oui, tel est le chant. Que font entendre les anges et les saints. Oh oui, tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Amen.
Nous voulons dans cette lancée continuer à chanter la majesté de Dieu. Nous voulons dire à Dieu, me voici confondu par ta majesté. Nous allons chanter ce chant, et après ce chant, nous aurons un moment d'adoration. Donc, après ce moment, sentez-vous libre de louer, de prier, juste après ce chant.
Par ta majesté, couvert de ta grâce illimitée, me voici conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, oh ta grâce, ta
grâce passe
prouver tel que je suis. Je n'ai rien, je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, 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 majesté. Par ton amour, je suis transformé. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. Me voici confondu par ton amour, pardonné, je pardonne en retour. Me voici conscient d'être ton plaisir, sanctifié. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice, majesté. Majesté, 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 c'est ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien en moi, mais en toi je vis. Majesté, 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 majesté. Par ton amour, je suis transformé. Par ton
amour, je suis transformé.
En présence de ta majesté, majesté, majesté. Majesté, majesté, ta grâce, Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien, je n'ai rien en moi, mais en toi. Ta grâce m'a trouvé. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien, je n'ai rien à moi, mais en toi je. Oh oui, ta grâce, ta grâce, ta grâce m'a trouvé tel. Je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien en moi, mais en toi je vis. Majesté, 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 ma. Par ton amour je suis transformé. Par ton amour je suis en présence de ta main. Par ton amour je suis, par ton amour je suis. Je n'ai rien, je n'ai rien en moi, mais en toi je. Par ton amour je suis, par ton amour je suis transformé. En présence, par ton amour je suis. Est-ce que tu es conscient, si tu vis, c'est par amour. Par ton amour je suis transformé. En présence de ta majesté. Par ton amour je suis. En présence. Est-ce que tu peux vivre ce que tu dis? Par ton amour je suis transformé. Par ton amour, par ton amour. Est-ce que c'est le cri de ton cœur? Est-ce que tu es conscient que tu es sauvé par l'amour de Dieu? Sens de ta majesté. Par ton amour je suis. Par ton. Si tu vis, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en toi. En présence. Par ton amour je suis. Je suis transformé. En présence de ta majesté. Sentez-vous libre de louer le Seigneur, de lui parler.
Amen. Nous avons effectivement raison de louer notre Dieu parce que nous avons un grand Dieu. Et malheureusement, des fois, c'est nous qui le limitons. Des fois, nous prions, nous demandons des choses, mais est-ce que nous croyons en ce que nous demandons? Est-ce que nous croyons que ce que nous avons demandé à Dieu, Dieu va nous répondre? Nous sommes malades, nous prions, mais on s'appelle déjà du nom de la maladie. Je suis hyperattendu, je suis ceci, je suis cela. On s'appelle par son nom, le nom de la maladie, sans même dire que Dieu peut me guérir. Alors que nous avons un grand Dieu. Mardi soir, nous avons vu avec notre frère Émile le livre des Actes, Actes 12 plus précisément, où en fait il y avait Hérode, qui voulait faire tuer en fait Pierre. Et toute l'église priait. Toute l'église priait. Et là, il y a eu un miracle qui s'est passé. C'est que Pierre, il est sorti de la prison, on l'a réveillé, il est sorti. Il est arrivé jusqu'à la maison là où tout le monde priait. Et quand il a toqué, la servante, Rod, elle n'en croyait pas à ses yeux. Et qu'est-ce qu'on lui a dit? Ça, c'est une question pour être participatif. Qu'est-ce qu'on lui a répondu? On lui a dit, tu es folle. Donc voilà toute l'église qui prie pour quelque chose. Et quand la chose arrive, on n'y croit pas. Est-ce qu'on a la foi de ce que nous demandons à Dieu? Est-ce que nous prions juste par formalité parce qu'on nous a dit qu'il fallait prier, parce qu'on nous a toujours enseigné qu'il fallait prier, donc on a prié, donc on se sent bien d'avoir prié, mais c'est tout, j'ai fait la prière, après Dieu fait ce qu'il veut? Ou est-ce que nous avons prié, nous nous mettons derrière notre prière en nous disant, Dieu va répondre? Quel Dieu servons-nous? Un Dieu tout-puissant, un Dieu de l'impossible, un Dieu qui peut faire au-delà de ce que nous demandons. Nous avons des maladies, nous prions, les maladies s'en vont. Nous avons des problèmes avec le voisinage, avec toutes sortes de personnes. Les problèmes sont résolus. Dieu de l'impossible. Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons. Amen.
Ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Puissance, louange, louange. louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais, tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accomplir. Amen. Alléluia. Yes, Seigneur, tu es fidèle.
En lui, je peux tout accomplir. Parce que nous avons un grand Dieu, toujours Dieu de l'impossible. En guise de prière, nous allons chanter ce chant. Ta bienveillance. J'écouterai ce que dit Dieu. Car il est droit pour qui l'écoute. C'est parce que nous avons écouté la parole de Dieu que nous l'avons acceptée. Bien souvent, nous voulons ne pas écouter la parole de Dieu, mais alors que la parole de Dieu, c'est elle qui nous dit ce que nous devons faire, comment nous devons faire. Et sans l'écoutant, c'est en suivant son chemin, ses voies, ses directives, que nous sommes dans la volonté, la bénédiction de Dieu. J'écouterai ce que dit Dieu, ta bienveillance.
Nous donner ta bienveillance, ta bienveillance. éternel vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ô éternel, vaut mieux ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Salut, ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Amen.
Merci encore, mon Dieu, de ta présence en ce matin, une fois de plus. Merci parce que tu nous fais du bien. Nous voulons encore continuer dans cette pensée, écouter ce que tu as mis sur le cœur de ton serviteur qui va nous parler de ta part en ce matin. Merci de le bénir encore au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir et sans plus tarder, je laisse la place à celui qui va nous porter le message.
Bonjour frères et sœurs. Ah, moi je me sens bien quand je suis en présence de mon Dieu comme ça, je me sens bien, ça fait du bien. Je sens qu'une fraîcheur qui habite mon cœur. Comment ça va être là-haut? Alors que nous avons des imperfections, n'est-ce pas? Quelquefois, nous avons bien des tracas qui nous causent des soucis. Mais enfin, quand nous sommes en présence de notre Père comme ça, personnellement, moi, je sens une fraîcheur qui habite mon cœur. Alors, je me dis, Seigneur, quand je serai là-haut, ah, il n'y aura plus de factures. Il n'y aura plus des enfants qui nous marquent la résistance. Ça va être cool, si vous me passez les termes. Ça va être cool. Je prie. Père, au nom de Jésus-Christ, merci parce que tu as déjà béni ton église ce matin par les chants et par les prières. En ce moment, Papa, je viens devant toi dans le nom de Jésus-Christ avec la promesse que tu avais faite, à savoir de nous envoyer ton Saint-Esprit qui est l'enseignant principal, lui qui est capable de nous conduire dans toute la vérité. Non seulement il est capable de nous conduire dans toute la vérité, de nous faire voir des choses cachées dans ta parole, dont nous avons besoin pour notre instruction. Ce matin, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ la puissance de la résurrection qui a permis à Jésus-Christ de prendre la clé de la mort entre les mains de l'ennemi. Je prie dans le nom de Jésus-Christ par la puissance de la résurrection, de me renouveler, Seigneur, s'il te plaît, de te servir de moi. Utilise ma bouche, Seigneur, s'il te plaît, pour ta gloire, afin que ton Église puisse être bénie. Efface-moi totalement. Je veux que Ben se taise, mais que ton esprit m'utilise pour ta gloire. C'est la prière que je t'adresse, Seigneur. Tu connais le cœur de chacun ici, mais tu as une parole certainement pour une personne. Je te demande dans le nom de Jésus de me permettre de m'utiliser, de me permettre de la transmettre avec puissance, avec efficacité. C'est la prière que je t'adresse, Papa, dans le nom de Jésus-Christ, lui qui vit, qui règne, à jamais. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, ce matin, je me sens tout petit devant vous, mais parler de Dieu, comme je dis souvent, ce n'est pas toujours une mission facile, mais j'apprends avec l'apôtre Paul. Quand je dis j'apprends avec lui, je ne l'ai pas vu physiquement, c'est au travers de ses écrits, quand je vois l'apôtre Paul, son zèle, comment il a déployé son énergie, je me dis, eh bien, ça c'est un modèle à suivre, malgré moi. Parce que je vois l'apôtre Paul avant, déjà dans le judaïsme, la fougue qu'il avait, l'énergie qu'il avait, et lorsque Jésus l'a rencontré, eh bien, je vois comment Paul était devenu un ardent défenseur de la parole de Dieu. Il voulait à tout prix transmettre la parole de Dieu partout pour racheter, afin de sauver des hommes pour Dieu. La lecture de la parole de Dieu, je vous la propose en Éphésiens chapitre, frère, s'il te plaît, Éphésiens chapitre 1er. Vous allez peut-être remarquer, si vous êtes très observateur, je note qu'il y a trois personnes qui ont quasiment dit ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Et elles vont se reconnaître. Et nous n'avons pas concerté. Il y a un en face de moi qui me regarde dans les yeux quasiment, mais on n'en a pas parlé de ça. Et vous allez voir. Avant de faire la lecture, je vais faire deux citations. Dieu avait, je ne veux pas parler d'Abraham, hein, c'est juste pour faire comprendre ce que j'ai envie de vous dire. Dieu avait appelé Abraham en lui faisant une promesse, mais cette promesse était une promesse terrestre. Nous sommes d'accord avec ça. Nous n'avons pas besoin de citer tout ce qui se passe aujourd'hui, mais nous qui avons une culture biblique, nous savons que Dieu avait fait cette promesse à Abraham. Et bien évidemment, cette promesse, Abraham ne l'a pas tout à fait jouie, mais c'est ses descendants qui ont bénéficié. D'où, quand nous lisons Josué chapitre 13, chapitre 14, nous voyons le partage de ces territoires que Dieu avait promis à Abraham. Ça, c'était la promesse terrestre pour Israël. Mais Israël et l'Église, c'est pas la même chose. Il y a Israël d'un côté, il y a l'Église. Jésus-Christ lui-même avait dit, il avait l'intention de bâtir son Église. L'Église, c'est autre chose. Pourquoi je dis ça? C'est parce que vous allez voir, je vais parler de l'héritage. Comme je vous disais, si vous observez bien, il y a des frères qui ont déjà souligné ça dans leur prière. Et nous allons voir aussi, avant toujours la lecture, l'apôtre Paul, comme je l'ai déjà dit précédemment, en Actes chapitre 20, quand nous lisons Paul, je me dis, mais est-ce que Paul, comme actuellement il y a des mots on n'ose pas trop dire, on peut se demander, est-ce que Paul n'était pas animé d'un esprit, je préfère ne pas trop le dire, mais c'était un esprit vraiment méchant, cruel. Parce que quand nous lisons Actes chapitre 9, la Bible nous dit, Paul, son intention, il respirait simplement de massacrer les chrétiens. Alors, il avait même des lettres avec lui, là où il y avait des gens comme vous, comme moi, là, qui priaient, des gens qui chantaient la gloire de Dieu, Paul était prêt à les arrêter, de les massacrer carrément. Et c'est de ce Paul, je vais vous parler un petit peu, en Éphésiens chapitre 1er, et je vous lis le verset 15 à 19. 15 à 19, mais le texte qui va nous préoccuper, c'est le verset 17-18. Éphésiens. J'ai lu la parole de Dieu. Alors, aussi pour remettre cette lecture dans son contexte, vous comprendrez que c'était une prière que Paul, c'est une prière que Paul avait adressée, une prière qu'il avait faite lorsque il a rencontré Jésus-Christ. Je préfère dire ça, c'est pas Paul qui a rencontré Jésus, c'est Jésus-Christ qui l'a rencontré. Et quand Jésus l'a rencontré et que Paul va demander, Seigneur, que dois-je faire? Qui es-tu? Et Jésus va lui dire, arrête Paul. Écoute, les chrétiens là que tu persécutes, c'est moi que tu persécutes. Et Paul, en s'adressant aux Éphésiens, il a fait cette prière il va demander à Dieu pour que Dieu leur ouvre les yeux afin qu'ils comprennent en quoi ils sont exactement. Je vous lis le texte. Je suis au verset 15, Éphésiens 1er, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, si vous voulez bien, vous pouvez souligner le mot saint. Verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Alors, il y a une cause, moi j'aime bien lire comme ça. La cause, c'est afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est l'un des textes sur lesquels je vais m'arrêter. Et le verset 18 qui dit « qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyant infini, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Je lis le verset 20 aussi. « Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite des dieux dans les lieux célestes. » Alors, le verset 18, si je donne un titre à notre méditation, frères et sœurs, c'est dans le verset 18 qui dit « l'espérance qui s'attache à son appel. » Est-ce que vous êtes avec moi? L'espérance qui s'attache à son appel. Je disais au préalable, lorsque Dieu a appelé Abraham, Dieu n'a pas seulement appelé Abraham comme ça, mais il lui avait fait cette promesse en lui promettant de lui donner un territoire. Et cet territoire, c'est fait. Moi, j'aimerais bien vous conseiller de garder votre position, votre foi en Jésus-Christ. Cette position-là, je dis, c'est la meilleure pour ma vie, parce que après ma mort, c'est le seul bien que j'ai là-haut. Parce que sur terre, la Bible nous dit, tout va passer. Tout, absolument tout. Et quand vous lisez Pierre 3, quelque chose comme ça, qui nous dit, tout va être consumé. Tout, tenez-vous bien, tout. Alors, comme il y a un frère qui m'a précédé, qui a dit dans sa prière, nous avons une espérance vivante. Nous allons voir ça aussi. Alors, c'est l'espérance qui s'attache à son appel. L'apôtre Paul, lorsque il a compris, je vais dire ça plutôt autrement, lorsque sur la route, Jésus est apparu à lui, et que Paul, il va y avoir un changement radical qui allait être effectué dans sa vie. Alors, lorsque Paul, lui, maintenant, il va s'adresser aux Éphésiens, laissez-moi vous dire cette parole qui date depuis du temps de Paul, qui traverse des siècles, cette parole reste et demeure pour moi. Cette parole reste et demeure pour l'Église. D'ailleurs, toutes les assemblées chrétiennes, c'est ces paroles-là qui conduisent les assemblées. C'est cette parole-là qui conduit les assemblées chrétiennes, quel que soit le lieu, là où il y a des hommes, des femmes réellement qui parlent de Dieu, des hommes, des femmes qui portent le flambeau, qui annoncent Jésus-Christ, c'est cette parole-là qui les conduit, parce que c'est la base. Alors, là où je vous lis, en Éphésiens chapitre 1er, verset 15 jusqu'au verset 20, mais comme je vous avais dit, l'apôtre Paul va dire au verset 17, dans sa prière, ce qu'il demande à Dieu pour les Éphésiens, ce qu'il demande à Dieu pour l'Église de Jésus-Christ, nous-mêmes aujourd'hui, nous en faisons partie, c'est que le Père de gloire, il demande que le Père de gloire donne à l'Église un esprit de sagesse. Si nous parlons de la sagesse, je ne vous parle pas de la sagesse. Aujourd'hui, nous apprenons dans les amphis, dans les universités, dans les salles de classe. Cette sagesse-là, elle est bonne, parce que cette sagesse-là nous permet d'avoir certaines rationalités, ça nous donne de faire certains raisonnements, cette sagesse-là nous donne de réfléchir, de savoir comment formuler, comment parler, comment répondre. Très bien, excellent. Mais cette sagesse, c'est une sagesse venant de Dieu. Et lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 1er, verset 2, qui n'a pas été donné, frère, qui nous dit de Jésus-Christ, le texte parle de Jésus-Christ, du tronc d'Ésaïe, il va y avoir un tronc, et de ce tronc-là, c'est-à-dire un petit rameau, c'est imagé, et il va y avoir un esprit de connaissance, un esprit de sagesse. Il est question de Jésus-Christ, c'est la naissance de Jésus-Christ qui avait été prédite là. Et cette sagesse, c'est de Jésus-Christ même, et que Paul va demander cet esprit de sagesse. Le but, c'est afin de comprendre. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, aujourd'hui, nous qui confessons Jésus-Christ, bon, c'est pas nouveau, parce que l'apôtre Paul lui-même, de son temps, comment il appelait les chrétiens, ils appelaient ça une secte. Et encore aujourd'hui, nous, les dimanches matins, ou bien nous ne cachons pas notre position, notre foi, nous disons que nous croyons en Jésus-Christ, souvent on nous regarde avec des yeux bizarres. Donc, dans l'évangile, dans cette voie où nous sommes, nous ne sommes pas nous ne sommes pas dans un truc, dans un mouvement, on va nous embobiner, on va nous emballer. Non, nous savons certainement où nous sommes, comme les jeunes avaient chanté, nous savons qui nous sommes, nous savons qui nous sommes, nous savons en qui nous croyons, nous ne sommes pas dans un mouvement. Nous ne sommes pas dans un mouvement, nous ne sommes pas entre copains pour venir passer. Non, nous sommes des enfants de Dieu, nous avons quelque chose d'extraordinaire qui nous attend. Et Paul a fait cette prière, demander à Dieu pour les Éphésiens, de manière qu'ils aient un esprit de sagesse. Et cette sagesse-là, ça va porter sur la connaissance qui les éclaire, qui les fait comprendre en quoi ils y sont exactement. Et en même temps, dans toujours le texte, le verset 17, il y a le mot révélation. L'apôtre Paul va dire aux Éphésiens un esprit de révélation. Et lorsque nous lisons Galates chapitre 1er, verset 11-12, l'apôtre Paul, lui, va dire aux Éphésiens quelque part. Lui, c'est pas l'évangile dans lequel il était. C'était pas quelque chose, comment vous dire, qu'il ne l'avait pas appris d'un homme. Un homme ne l'avait pas appris. Lui, c'est que c'est Jésus-Christ lui-même qui, je crois, nous avons le texte. Voilà, verset 11. Je vous déclare, frère. Il y a une version qui dit en même temps, frères et sœurs, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. C'est très fort. C'est cash. Le texte nous dit, car je ne l'ai ni reçu, ni appris des noms, mais par révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire que là, le mot révélation, c'est le dévoilement de ce qui est caché. Paul veut faire, demande, dans sa prière, demande à Dieu, pour les Éphésiens, de leur donner un esprit de sagesse, un esprit de révélation. Frères, sœurs, dans cet évangile, vous et moi, nous sommes, moi je vous dis, nous sommes bien placés. Et ce qui nous attend, et nous allons voir ça. Et toujours maintenant, si je prends le verset 18, et Paul, le verset 18, il continue sa prière, il va demander toujours à Jésus d'illuminer. Qui a déjà vu la tour Eiffel illuminée? Moi, je n'ai jamais vu ça de près. Quand je suis en hauteur du Trocadéro, tout en haut, bon, si vous n'êtes pas parisien, je vous comprends. Hein? Non, mais c'est vrai. Si vous êtes parisien, peut-être vous avez l'occasion, mais si vous ne l'êtes pas, non, ça je comprends. Illuminer, là, c'est un langage spirituel. Vous savez que nous sommes dans cette salle, mais il y a des choses, moi je peux l'entendre, je le comprends tout de suite d'une manière, et vous êtes là, vous ne comprenez pas. Je vous donne un exemple. Jésus eut à interviewer, si vous me passez les termes, ses disciples. Et dans cet entretien, Jésus commence à leur demander, mais alors, les autres du dehors, il y a certains qui me prennent, qui me disent, qui voilà. Mais vous, qui me suivez depuis 3 ans, qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce que vous savez de moi? Alors, bon, chacun essaye de donner son avis. Il y en a, bon, comme vous connaissez le texte, c'est Matthieu chapitre 16. Il y en a qui disent, bon, tu es un prophète, tu es un rabbin, bon. Mais la Bible nous dit, Pierre a eu cette révélation. Il a dit que tu es le Christ. Et Jésus va dire à Pierre, cela ne vient pas de toi, c'est mon Père qui te l'a révélé. Bien-aimé, l'évangile de grâce, c'est bien son nom. L'évangile de grâce, qui est la bonne nouvelle, c'est quelque chose de sérieux, c'est la vie. Et le texte va nous dire... Au verset 18, je vais rester là, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Comme je vous dis, c'est pas une affaire physique, c'est spirituel, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Vous savez que, je vais vous rappeler, cette espérance, elle est vivante. 1 Pierre chapitre 1er, verset 3, 4. Le texte nous dit que nous avons cette espérance. Merci frère. Voilà, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je prends le verset 4 qui nous dit, je lis tous les textes. Si je ne lis pas tous les textes, on va avoir du mal pour comprendre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Une espérance vivante. Et Hébreux chapitre 9, verset 19, ou Hébreux 6, verset 19, va nous dire que c'est comme une ancre solide, cette espérance. C'est quelque chose qui tient cette espérance. Et ce que j'aime bien, le texte va nous dire que par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Voilà notre héritage. Voilà mon héritage à moi. Je ne sais pas si c'est votre héritage, moi c'est mon héritage. Donc, aujourd'hui, que nous ayons, je ne sais trop, quelle que soit la richesse, ça va passer. Et nous-mêmes, nous passerons. Tout à l'heure, nous avons chanté « Majesté, majesté ». Mais quand j'observe l'Église, je vous comprends, hein? C'est parce que vous ne savez pas trop de quoi il s'agit. Vous savez que dans certains milieux, quand on est en face d'un ambassadeur, vous savez comment? C'est l'excellence. Vous comprenez ça? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de famille là-dedans, dans ce milieu. Mais non, je n'ai pas de famille là-dedans. Mais il m'arrive de les entendre, parce que dans mon milieu de travail, là où je suis, il m'arrive d'entendre, quand on voit un petit comme ça, on va l'appeler l'excellence. D'accord? Et de même, lorsque on est en face d'un haut placé, on va l'appeler Sa Majesté. Vous comprenez ça? Alors, quand nous chantons « Majesté, je vous vois, dans mon cœur, je suis triste. » Je suis triste. Je vous comprends parce que vous savez pas de quoi il s'agit. Moi non plus, je connais pas trop, mais quand je vois les gens de ce monde, on les appelle Majesté. Sa Majesté. L'excellence. Alors, notre Dieu, il mérite. Écoutez, pas très longtemps, il y a une haute personnalité. Quand on parlait d'elle, c'est Majesté. Elle est morte. D'accord? Elle est morte. Elle est morte. Mais notre Jésus, il tient la clé de la mort. Amen. Amen. Notre Jésus, il tient la clé de la mort. Et la Bible nous dit, il vit au siècle de siècle. La mort n'a aucun pouvoir sur lui. D'accord? Alors, dans cet appel, vous savez que quand je suis toujours dans le texte, verset 18 de Éphésiens, l'espérance qui s'attache à son appel. Jésus nous appelle, il nous fait une promesse. La promesse que Jésus nous fait, c'est qu'il va venir nous chercher. Le texte de là où nous avons lu tout à l'heure, il nous dit, il nous est réservé. Il nous est réservé dans le ciel un héritage. Ah, j'aime bien ça. Pour un héritage qui ne peut, verset 4, je suis au verset 4, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Revenons. Je vous ai dit tout au début, Dieu a appelé Abraham, il l'avait. C'est juste pour mettre ça dans le contexte, hein, parce que nous sommes en plein, nous sommes dans l'actualité, nous savons que ça existe déjà, mais je vous rappelle pour que vous compreniez de quoi je vous parle. Lorsque Dieu a appelé Abraham, et la Bible nous dit, Dieu veille sur sa parole. Et quand il a appelé Abraham, voilà, avec Josué le conquérant, Josué a conquis ces territoires, c'est lui qui a fait les partages pour distribuer cette terre aux enfants d'Israël. Ça, c'est un héritage terrestre. Nous voyons tout ce qui se passe là-bas. Bref, je suis pas là. Mais cet héritage qui nous est réservé dans les cieux, cet héritage-là, aucun tremblement de terre ne peut le faire sauter. J'ai eu à parler une fois avec un frère qui m'a dit que il avait construit en Haïti c'était un hôtel de 24 ou 26 chambres. Il m'a dit le tremblement de terre l'a rasé. Et ce qu'il m'avait dit, la somme qu'il avait dépensée, qu'il avait mise, et à son âge, il est à la retraite, il ne pourra plus travailler pour avoir cet argent. Mais aujourd'hui, cet héritage qui nous est réservé, l'appel, l'espérance que nous avons, cette espérance-là est liée. À cet appel-là, il y a une espérance. Vous savez que Dieu, dans le jardin d'Éden, lorsque Adam était dans une harmonie parfaite, tout allait bien, et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Le péché est arrivé. Je suis en Genèse chapitre 3, verset 9. Le texte nous dit que, et Dieu, qui avait un lien, une harmonie parfaite avec Adam. Et malheureusement, Adam, bon, on fait porter le chapeau à Adam, mais c'est pas forcément, nous comprenons le texte, c'est pas Adam qui a péché, mais puisque c'est lui qui était le responsable, voilà, il porte le chapeau, mais c'était pas lui. Le serpent, mais c'est comme ça, le serpent a séduit Ève, c'est pas notre sujet, hein, mais je rappelle les choses, le serpent a séduit Ève, malheureusement, c'est Adam qui porte. Est-ce que vous avez jamais vu, quand vous lisez, on vous dit que c'est... Non, c'est Adam qui porte le chapeau. Mais une soirée, Dieu passe pour s'entretenir avec Adam. Et la Bible nous dit, Genèse chapitre 3, verset 9, Adam, il s'est caché. Vous savez, alors nous parlons d'Adam. Cet appel-là, ça c'est face au péché, ok? Comprenez-moi bien, là c'est face au péché, quand Dieu, les pécheurs, Dieu nous appelle. Dans cette circonstance-là, Adam avait péché et il a eu conscience, c'est important de ça, je souligne ça. Adam s'est rendu compte, il y avait un petit couac. Adam s'est rendu compte, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je ne sais pas comment vous vous sentez, moi je trouve que Adam était un homme très conscient, hein. Parce que, puisque le péché, il sentait qu'il y avait ces petits trucs qui n'allaient pas, tout à coup, il s'est mis à l'écart. Ça, c'est important, c'est à saluer, hein. Parce que nous sommes malheureusement dans une société, même si parfois, la personne fait la chose, même lorsqu'on l'appelle, elle commence à faire la grosse tête. Elle marque de la résistance. Mais Dieu a appelé Adam pour lui dire, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, le péché était là, le péché était constaté. Vous connaissez la suite. Pareil, c'est l'appel face au péché. Et nous, vous et moi, nous pouvons être au sein de l'Église, peut-être prédicateurs, chantres, présidents de culte, ou bien, que sais-je, pasteurs. Nous pouvons être en désaccord avec Dieu. Mais quand la voix de Dieu retentit, quand la voix de Dieu parle, il faut écouter. Cet appel-là, c'est pour se détourner du péché et du mal. Et nous voyons aussi cette, l'espérance qui s'attache à son appel. En Actes chapitre 13, verset 2, ça c'est un appel pour la mission, pour être au service du Seigneur. Et Dieu, le Saint-Esprit qui va demander, et, qui va sélectionner Paul et Barnabas pour qu'ils soient à son service. Et c'est l'appel pour être au service de Dieu. Mais en dehors de tous ces appels, mais il y a l'appel pour chaque pécheur, pour chacun de nous dans l'Église. Nous pouvons être là. Alors, pour nous, la Bible nous appelle des saints. Alors, une petite rectification, comme le pasteur a déjà plusieurs fois parlé de ce mot saint. Saint, c'est mis à part, c'est les gens qui ont accepté, d'ailleurs, il est écrit en Éphésiens chapitre 1, verset 1, qu'il nous parle des saints, parce que nous nous sommes donnés. Est-ce que c'est nous qui nous sommes donnés? Non, c'est parce que Jésus-Christ nous appelle, il fait de nous ses enfants, nous sommes des saints. Et ce mis à part là, nous avons un héritage qui nous attend dans les cieux. Bien-aimés, c'est très important. C'est très important. Et la Bible nous dit que pour nous, là où nous serons avec Dieu, Apocalypse chapitre 21 va nous décrire cela. L'espérance qui s'attache à son appel. Jésus nous appelle, il y a une espérance, nous avons un héritage qui nous attend là-haut. L'apôtre Paul, dans sa prière, il demande à Jésus-Christ d'éclairer, de nous éclairer, de nous donner la sagesse, de nous révéler ces choses pour que nous puissions les comprendre. Pas sur le plan physique, matériel, mais de manière spirituelle à comprendre le tas là où nous sommes. Et l'apôtre Paul l'a vécu lui parce que dans sa vie d'avant, l'apôtre Paul c'était quelqu'un qui était farouchement opposé à la parole de Dieu. Mais lorsque sur la route, Jésus l'a rencontré, il y a eu un changement et l'apôtre Paul maintenant qui va faire cette plaidoirie, qui va prier, qui va intercéder pour demander à Jésus-Christ de nous éclairer, d'éclairer son Église afin de comprendre c'est quoi dans cette affaire de l'Évangile là où nous sommes, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui nous attend? Est-ce que nous sommes là pour passer le temps? Non, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. Et l'apôtre Paul va nous, l'apôtre Jean va nous décrire ce qui est réservé pour nous en Apocalypse chapitre 21 verset. Alors ce chapitre là, je dirais que franchement chaque personne qui confesse Jésus-Christ devrait prendre un peu de temps franchement pour le lire, pour voir qu'est-ce qui nous est réservé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Merci frère. C'est l'apôtre Jean dans sa vision qui nous expose ce sujet, ce point. Alors, qui nous dit, et j'ai entendu, c'est Jean qui écrit ce livre, et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habita avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Ça veut dire, c'est lorsque, vous savez qu'il y a plusieurs séquences qui doivent se produire. Vous le savez, la Bible nous dit, nous ne mourrons pas tous. Les morts, d'ailleurs, nous précéderont. Lorsque Jésus vient dans son avènement, les morts en Christ ressusciteront et nous autres, nous les suivrons. Et la Bible nous donne les détails. Bon, ça demande beaucoup de temps pour expliquer combien de temps nous allons passer dans les cieux. Après, on va revenir sur la terre. Ça, je ne suis pas dans une étude biblique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais aujourd'hui, nous avons presque chaque mot dans cette phrase qui nous les subissons. Qu'est-ce qui va se passer? Le texte nous dit, je suis en Apocalypse, chapitre 21, « Il essuiera toute l'âme de leurs yeux », c'est-à-dire nous les croyants, nous les saints. Et il y a la mort, ça j'aime bien parce que la mort ne sera plus. Aujourd'hui, la mort nous fait pleurer, hein? Ah ouais, je vois pas très longtemps, j'ai un cousin qui a un petit-fils de 9 ans. Un dimanche, il était dans un anniversaire et le petit était assis sur une chaise, 9 ans. Tout à coup, on le voit couler. On pensait peut-être, bon, voilà, il a fait un faux pas. Il est mort sur le coup. Pour assister à une scène pareille. Donc la mort, ça fait pleurer. Ça nous laisse des cicatrices. J'ai envie de dire presque on a du mal pour se remettre. Voilà. Et il n'y aura plus, béni soit l'Éternel. Le texte nous dit, là où nous serons, c'est l'endroit qui nous est réservé. C'est l'héritage qui nous est réservé. C'est pourquoi je vous dis, accrochez-vous. Vous savez que dans cette vie, nous avons tant de choses qui nous causent problème. Nous avons tant de choses, soit dans la famille. Oui, ça existe dans la famille. Hein, dans la famille, nous sommes dans une même fratrie, mais on a un frère qui nous cherche des querelles tout le temps. Ça vous arrive pas, vous? Ben, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Oui. Nous avons, dans nos familles, dans nos familles biologiques, c'est pas les voisins qui viennent de l'autre bout du monde qu'on connaît pas, dans nos familles, qui nous créent vraiment. On s'est dit, mais pourquoi tout ça? Essayons de vivre en paix. Voilà, la Bible nous dit, là qui l'héritage qui nous est réservé, la mort ne sera plus. C'en est fini. Il n'y aura plus de deuil, ni cri. Aujourd'hui, les tremblements de terre, ils font pleurer les parents. La guerre, ils font pleurer les parents. Voilà, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est-à-dire tout ce que nous voyons là aujourd'hui, la guerre, les ceci, les cela, ces choses-là auront une fin. Mais nous serons... Et qu'est-ce que nous allons faire là-haut? Nous allons être dans la présence de Dieu. Comme je vous disais au départ, moi je sens une fraîcheur dans mon cœur quand je loue mon Dieu. Et cette fraîcheur, j'aimerais la vivre pour l'éternité. Voilà, voilà. Et l'apôtre Paul, dans sa prière, pour terminer, dans sa prière, je suis au verset 17 d'Éphésiens, j'aurais lu le texte, l'apôtre Paul, ce qu'il demande, afin que le Dieu, je lis le verset 15 à 18 pour la compréhension de chacun, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, hein, cette réputation-là était connue, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de votre amour pour tous les saints, hein, il y avait cet amour-là, et je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, le but, la cause, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Sagesse, je dis bien, pas la sagesse de ce monde, mais la sagesse qui vient de Jésus-Christ. Et de révélation, et cette révélation, l'apôtre Paul l'a expérimenté sur la route de Damas. Il l'a expérimenté, d'accord? Et dans sa connaissance, Ésaïe chapitre 11, je citais le texte, qui dit de ce petit rameau, il va y avoir l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, l'esprit de paix. Je crois au nombre de 9, je ne me rappelle pas exactement, mais c'est comme ça. Et le verset 18, l'apôtre Paul continue, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pas le cœur charnel, mais de manière charnelle, mais de manière spirituelle, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et nous serons dans la gloire. Regardez-vous bien pour dire que tel que vous êtes là, vous serez dans la gloire. Waouh! Quand je lis Moïse a passé 40 jours auprès des dieux. Tenez-vous bien. Le texte nous dit, au retour de Moïse, les enfants d'Israël n'ont pas pu le regarder. Le visage de Moïse était rayonné de gloire. C'est intéressant ça, hein? C'est une bonne affaire, hein? Voilà où nous serons. Et quelque part, il y a un endroit qui dit, lui qui habite une lumière inaccessible, le Père de gloire. Voilà. Comprenez, nous ne sommes pas là, pendant que je vous parle là, pour raconter des histoires. C'est sérieux ça. Hein? C'est sérieux. Hein? C'est sérieux. Et si jamais dans cette assemblée, vous qui m'écoutez, vous, ici, il y a quelqu'un qui ne fait pas la paix encore avec Jésus-Christ, je vous en supplie, ouvrez votre cœur. Laissez rentrer le Père de gloire. Laissez-vous pénétrer par cette révélation. Laissez-vous pénétrer par cette sagesse. D'accord? Et je termine. Quand j'ai l'occasion, à cause de mon travail, hein, quand je rentre dans un hôtel à Paris, je vous dis, parfois je suis. Quand je vois le carrelage, quand je vois le décor, quand je vois toutes ces choses, mais je me dis, moi, je ne vais pas me laisser impressionner. Et je termine là. Je l'avais dit, mais je le redis, parce que c'est important pour moi, parce qu'il y a des choses, parfois, qui peuvent nous impressionner. J'ai assisté à un mariage pendant cet été. dans la salle là où j'étais invité, quand j'arrive, ce que je vois, je me dis, quelqu'un qui n'a pas été, cette révélation quelqu'un qui n'a pas cette sagesse qui pénètre son cœur, va dire qu'on va rester ici bas pour toujours. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. La Bible ne nous dit pas ça. Ce que nous voyons ici bas là, ces choses-là ont une fin. Mais simplement, ceux qui croient en Jésus-Christ, ils ont une espérance vivante. Nous avons une espérance vivante. Et ce qui me tient à cœur, le texte me dit, ni la rouille, ni un tsunami ne pourront les faire disparaître. Je me rappelle que le tsunami qui a lieu au Japon, qui était monté à 23 mètres de hauteur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on voit les voitures, que ça, la façon, 23 mètres de hauteur, comment ça soulève les voitures. Mais cette richesse-là, elle est bien gardée, elle est conservée dans le ciel. Je prie. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé à tes pieds. Merci pour ta parole. Merci parce que un jour, tu nous as appelés. Peut-être il y en a que tu avais appelés en famille. Il y en a que tu avais appelés individuellement. Il y en a peut-être que tu avais appelés parce qu'ils étaient frappés par une maladie. Il y en a peut-être c'était une circonstance quelconque. Peu importe. Ce que nous savons, ce que tu nous dis, cette espérance, l'appel que tu nous avais adressé, il y a une espérance qui suit cet appel. Et Seigneur, un jour, tu viendras. Cela, nous devons le croire par la foi. Il n'y a pas une démonstration humaine, mais c'est par la foi. Un jour, tu viendras et nous serons avec toi dans la gloire éternelle. Qui suis-je? D'où je viens? L'apôtre Paul, en s'exprimant en 2 Corinthiens chapitre 11, il a dit pas mal de choses. L'apôtre Paul a dit aussi, il a tout quitté, il a tout abandonné. Des choses qui étaient pour lui comme des gains, des choses de valeur, il les a tous considérées comme de la boue à cause de l'excellence, à cause de la connaissance de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette parole. Tu m'accordes la grâce de pouvoir partager. Je sais, il y a plein d'imperfections, mais tu es capable de les traduire. La Bible nous dit, ton Saint-Esprit est capable pour traduire nos pensées. Alors Seigneur, bénis ton Église, fortifie-nous par ta grâce. Et donne-nous d'avoir cette espérance vivante de savoir que nous avons un héritage qui nous attend dans les cieux. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, sois honoré, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci à notre frère Eben pour le message. La parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, je vais demander à un ou une volontaire pour les offrandes, juste de récupérer le panier qui se trouve à l'arrière et de passer dans les rangs. Et juste après, je vais demander à notre frère Émile de venir jusqu'ici pour la prière pour les offrandes et la bénédiction. Et à notre frère Claude juste après pour les annonces. Merci, Julie.